Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs et amis auditrices, bonjour. En ces temps plutôt obscurs de multiples crises énergétiques, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, politiques, je vous souhaite une année de sérénité et de lumière. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission « Racontez-nous votre Montpellier », nous allons dans le quartier des Beaux-Arts, au 24 rue de la Cavalerie, où, depuis novembre 2018, est installée la librairie coopérative La Cavale. Pour nous parler de cette initiative à la fois singulière et réussie, Laure Maton, que je remercie, présidente de la Société coopérative d'intérêt collectif, ça fait sérieux, La Cavale, depuis mars dernier. Laure Maton, vous êtes Montpelliéraine depuis 2006, vous êtes ingénieure, vous travaillez à la métropole sur les questions du risque inondation. Racontez-nous votre Montpellier. D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous installer dans notre ville ?
Bien, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Bonjour. Donc, ce qui m'a conduit à m'installer sur Montpellier, c'est essentiellement des raisons professionnelles. Je travaillais dans le domaine de la gestion de l'eau, sur les aspects plutôt de rareté de l'eau. Et c'est à Montpellier que sont principalement toutes les équipes de recherche sur ces sujets-là.
Voilà, oui, au BRGM notamment.
J'ai travaillé au BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière, pendant 7 ans, sur des questions de recherche sur le changement climatique notamment.
D'accord. Alors, donc vous êtes ici depuis 2006. Quels sont les lieux qui, pas nécessairement qui figurent sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement à Montpellier, que vous recommandez par exemple? Est-ce que vous aimez bien à Montpellier?
Alors écoutez, j'aime beaucoup mon quartier déjà. Alors je n'habite pas les Beaux-Arts, mais je vais en parler après. J'habite le quartier des Aubes,
oui.
Qui est un quartier un peu enclavé, mais qui fait un petit peu village gaulois au sein de Montpellier, entre la voie de chemin de fer et le Lez. Extrêmement calme. C'est un lieu, par exemple, où en pleine canicule, on a plaisir à rentrer parce qu'avec les arbres.
Oui, donc c'est un quartier principalement de petites maisons avec un jardin.
C'est des petites maisons, il y a quelques commerces. Ouais. Ça manque un peu de vie quand même collective, mais il y a un marché qui s'est monté. Et j'aime en particulier le parc Rimbaud, où j'ai beaucoup traîné avec mon fils. On a beaucoup crapahuté le long du Lez aussi, où je fais du kayak de temps en temps.
Ah oui, d'accord. Très bien.
Alors sinon, évidemment, j'aime en particulier les Beaux-Arts, oui. Où j'ai habité dès que je suis arrivée sur Montpellier en 2006, avec sa place très, très dynamique, très vivante, ses cafés. Voilà, j'aime beaucoup le Manchester, par exemple, où c'est un peu mon QG.
Voilà, publicité gratuite.
Et puis, la Cavale, évidemment, qui est aussi mon lieu de refuge. Et quand je suis arrivée à Montpellier, j'étais émerveillée devant les cussons. C'est-à-dire j'ai vraiment passé énormément de temps à arpenter les cussons. Le
la partie historique médiévale, quoi.
Ce centre-ville médiéval qui reste pour moi vraiment aussi un lieu magnifique, très ressourçant, qui nous fait vraiment ressentir le poids de l'histoire de la ville. Et puis tous les faubourgs autour, j'ai habité les Arceaux. La rue Marioche, que j'aime beaucoup, donc Boutonnet, les Beaux-Arts, les Aubes. Et puis j'ai appris aussi à aimer Antigone,
Parce que le côté, cette architecture néoclassique, parfois rebute.
Qui fait penser aussi à l'architecture d'autres pays. Mais qui, au final, en y travaillant, puisque je travaillais jusqu'à il y a peu place Zeus, je fréquente la médiathèque, je fréquente la piscine olympique et les cafés autour. Et il y a le marché le dimanche matin. Et finalement, je trouve que c'est un quartier qui mérite aussi d'être connu.
C'est un quartier, je pense, qui a retrouvé, je dirais, place dans l'univers ou dans l'imaginaire ou dans le quotidien des Montpellierains. Parce qu'au début, voilà, c'était... Et ce phénomène, je l'ai observé parce qu'on fait visiter Antigone à ses amis de passage. Ce n'était pas toujours le cas au début.
Oui, absolument.
Très bien. Et alors, vous avez vécu ailleurs. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise Montpellier? Quel est, le style, voilà. Quand,
Pour moi, Montpellier, c'est vraiment à la fois une ville-monde, au sens où on sent vraiment le battement du monde au sein de cette ville par le dynamisme, tout bouge tout le temps. Il y a des boutiques qui ouvrent, alors malheureusement qui ferment. Mais il y a un dynamisme extraordinaire, il y a beaucoup de jeunesse. On le ressent d'ailleurs pendant les vacances scolaires, où tout d'un coup la ville devient plutôt une petite ville de province. Et puis, en même temps, la vie de quartier, c'est-à-dire la ville-village, où chaque quartier a son identité. Et puis on peut passer d'un quartier à l'autre pour rechercher une identité particulière. Donc ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement agréable. J'aime aussi, c'est sortir de Montpellier. Mmh. Et j'aime beaucoup me dire que j'habite d'un côté, à la fois, à côté du Pic Saint-Loup et de l'Ortus, qui pour moi reste vraiment quelque chose de saisissant, magnifique. Et puis la mer. Et
les étangs, peut-être.
Et les étangs, bien sûr.
Vous intéressez aux questions.
J'ai travaillé à Sète pendant quelques années. Sète aussi fait partie des lieux qui, pour moi, sont complètement reliés à Montpellier. En habitant à Montpellier, je suis un peu sétoise. Voilà, j'ai la possibilité d'y aller.
Et alors, comme vous le savez, vous l'avez vécu, parce que ce phénomène s'est perpétué et va accélérer. Énorme mutation de Montpellier, urbanistique, démographique, humaine, je pense. Quel jugement, quel regard vous portez sur ce phénomène en tant qu'habitante ?
Alors, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'assister à quelque chose qui nous dépasse un peu.
Oui.
En effet, voir toutes ces grues en permanence, ce grignotage des terres. Bon, j'ai travaillé sur le sujet et on a essayé de faire en sorte que ça soit le moins impactant possible. Et je crois que mes collègues continuent. Mais ce qui me semble délicat, c'est quand on est sur un urbanisme diffus, des phénomènes de division parcellaire qui font que chaque particulier va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, diviser sa maison, enlever les arbres qu'il y a sur son terrain, diminuer l'espace de pleine terre. Et c'est cet urbanisme diffus, moi, qui m'inquiète plus que tout ce qui est aménagement, qui est organisé, qui est très cadré, etc.
Si on en croit le projet que porte l'équipe municipale actuelle, ce qui a été dit, ce qui me semble dit comment être fait, justement, il y a l'idée quand même de limiter la consommation de foncier, de densifier la ville,
doit être accompagnée et vraiment ne pas se faire de manière trop anarchique.
D'accord. Oui. Alors, sur ce chapitre, dernière question pour boucler la boucle. Quand vous apprêtez à recevoir des amis ou des parents de passage, qu'est-ce que vous leur dites de Montpellier ? Qu'est-ce que vous leur conseillez comme parcours, comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure,
oui,
mais qui ne sont pas, nécessairement le parcours fléché proposé par l'Office de tourisme.
Encore qu'il soit vraiment très chouette aussi, ce parcours fléché. Je les envoie, je les accompagne plutôt aux Beaux-Arts. Toujours, c'est vraiment le lieu que j'affectionne particulièrement. Nous allons en général aussi au musée Fabre, à la Panacée, au Moco, errer dans les petites rues de Bécusson, toujours, j'en ai parlé tout à l'heure. Découvrir aussi, par exemple, pour ceux qui font du vélo, la balade qui permet d'aller jusqu'à la mer, jusqu'à Palavas, le long du Lez, qui est extraordinaire.
Oui, tout à fait.
Des pique-niques dans des lieux plutôt naturels, comme les Salines à Villeneuve-les-Maglones. La cathédrale de Villeneuve-les-Maglones aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait visiter à mes amis.
Oui, en effet. Ouais. Très bien, merci. Alors, venons-en donc à la cavale. Quelle a été un peu l'idée fondatrice, le constat peut-être, qui a conduit à cette initiative collective, donc il y a maintenant 4 ans et demi. Ce qui a donné l'idée, telle qu'elle a fleuri depuis.
Alors en fait, en 2010, dans le quartier des Beaux-Arts, Daniel Lemoigne avait ouvert une librairie qui s'appelait Livret, suite au fait qu'il avait quitté le Grain des Mots, il avait séparé le Bon Grain de Livret, je le dis aussi ouvertement parce que ça avait été annoncé dans la presse. C'était une petite librairie de 30 mètres carrés qu'on avait pris plaisir à fréquenter dans le quartier des Beaux-Arts. Et puis en 2017, fin 2017, début 2018, il nous a annoncé qu'il avait un autre projet, qu'il allait fermer la librairie. Il n'a pas trouvé repreneur. Et donc, ça a été vraiment le branle-bas de combat au départ de 6 personnes dont je faisais partie.
Ah oui, donc du coup, c'est une espèce d'engagement ou de...
C'était un engagement citoyen de se dire, mais surtout, ne laissons pas fermer une librairie. Nous tenons au fait que ce soit une librairie et en plus, c'est un commerce de proximité dans notre quartier. Et du coup, voilà, il y a eu cette mobilisation au départ, je vous dis, d'un noyau de personnes. Puis petit à petit, ça a grossi, à tel point que on s'est retrouvé assez rapidement en juillet à constituer une association qui s'appelait les COPS de Livret au départ, dans la perspective au départ de reprendre Livret. Mais ça ne s'est pas fait dans ce sens-là. Avec un noyau d'une centaine de personnes, rapidement.
Il y a eu un phénomène
très particulier, de mobilisation très fort.
C'est ça.
D'enthousiasme et avec des réunions, en effet, où on était très nombreux à réfléchir au lieu, au fond, au nom, quel nom donner.
Mais parmi ces personnes, il n'y avait pas de professionnels de la librairie, j'imagine.
Il y en avait
quelques-uns quand même,
si,
d'accord.
Si, certains étaient
des lecteurs ou des habitants.
Certains étaient libraires.
Hein. Oui.
Ils ne sont pas forcément restés d'ailleurs dans le projet par la suite. Ils ont créé parfois leur propre librairie ailleurs. Mais, et puis après, chacun avait des compétences. C'est ça qui était super intéressant, c'est que chacun avait des compétences vraiment très complémentaires à apporter. De gestion, de réflexion sur le fond, de mobilisation des partenaires, parce qu'on a été très accompagnés hein, par l'Union régionale des sociétés coopératives, par l'ERDI, par les banques, le CIC, etc. Par aussi des experts qui nous ont accompagnés sur la manière dont on ouvre une librairie, parce qu'au final, on s'est retrouvés alors non pas à reprendre le local de 30 mètres carrés de Livret, mais à rouvrir une nouvelle librairie en face de 100 mètres carrés avec un fonds de 10 000 ouvrages plutôt orienté sciences humaines et sociales au départ et aussi une librairie généraliste, bien sûr.
Donc du coup, une ambition assez élevée pour le coup qui est imposée, je dirais, un travail préparatoire. Un mode d'organisation ou peut-être un modèle économique qui permettait d'assurer non seulement la création mais la pérennité de la librairie.
Absolument. Donc le modèle économique qui a été choisi, c'est un modèle hérité de l'économie sociale et solidaire. C'est une société, donc vous l'avez dit tout à l'heure, coopérative d'intérêt collectif qui repose sur le principe de gouvernance de une personne, une voix. Quelles que soient les parts sociales prises.
Oui, ça c'est le principe fondateur des coopératives,
voilà,
fondateur historiquement.
Des coopératives, avec aussi un objectif de non-lucrativité, c'est-à-dire que les bénéfices qui sont réalisés sont reversés entièrement dans le capital de la librairie, de la société. Donc en fait, on est une société économique classique, une société anonyme simplifiée, SAS, mais sur le mode de gouvernance, on s'est organisé donc en société coopérative avec trois collèges. Le collège des coopérateurs bénévoles sociétaires, le collège des salariés...
Ils sont combien ce jour ?
Près de
400, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Deuxième collège,
les salariés, puisque nous avons... Alors, à ce jour, en janvier 2023, nous avons trois salariés, deux libraires et une personne qui nous aide pour l'entretien de la librairie. Jusqu'en décembre, il y avait trois salariés. Voilà. Enfin, quatre salariés, trois libraires. Et puis le troisième collège, c'est un collège de coopérateurs ayant des compétences dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'architecture.
Ah oui ?
Oui, qui nous ont aidés à concevoir le lieu.
D'accord. C'est-à-dire l'aménagement du lieu, quoi.
Aussi tout ce qui était dépôt de permis, d'aménagement ou de construire, pour tout ce qui était dossier d'autorisation d'urbanisme.
Voilà. Très bien. Donc ces trois collèges persistent ?
Oui, bien sûr.
Même si leur fonction,
voilà. Et c'est eux qui siègent lors de l'Assemblée Générale, qui a lieu au minimum une fois par an. On en fait plutôt deux, en général. Et puis ensuite, on a des comités de travail qui sont vraiment les forces vives qui font tourner la librairie avec les libraires. Donc on a un conseil coopératif qui est un peu l'instance garante du bon fonctionnement, l'instance décisionnaire finale. Puis des groupes de travail qui s'occupent des animations. On a le CLAC, Comité de liaison, animation et communication. On a un comité qui s'occupe des finances, de la trésorerie et du pilotage commercial. On a un groupe RH pour accompagner les libraires et les salariés. Un groupe MET pour maintenance, études travaux, évolution travaux. Donc ça, c'est tous nos amis qui participent à l'aménagement et tout ce qui est petits travaux, réparation, évolution.
Et une éventuelle extension ?
Ah, ça, on en rêverait. Je vous en parlerai
après. Voilà.
Ouais. On en rêverait. Et voilà. Alors après, sur le plan de l'avis de ces comités. Comme je vous le disais tout à l'heure en off, on est un peu dans une phase où on est dans, je dirais, dans le début de la seconde vie de la Cavale, Cavale saison 2, où il y a... j'appelle tous nos... Enfin, les auditeurs qui seraient intéressés à passer nous voir pour voir si ils seraient intéressés par participer à ces groupes, parce qu'on a besoin de forces vives, notamment pour tout ce qui est accueil des nouveaux coopérateurs, vie coopérative.
C'est-à-dire pour intégrer les nouveaux coopérateurs, expliquer comment ça marche, leur fournir des repères.
C'est ça, les accompagner, bien comprendre pourquoi ils viennent, les aider à trouver leurs repères dans le fonctionnement de la Cavale, leur faire tester éventuellement diverses réunions, et puis voir avec eux quels projets ils ont envie de mener, quelles compétences ils
Alors,
ont envie de
mener. Restons là-dessus, parce qu'on l'a un peu évoqué. Là. Donc, vous pouvez accueillir d'autres coopérateurs. Hein, donc, voilà. C'est un problème. Bon, c'est pas très compliqué. On trouve sur votre site.
La voie d'accès à la librairie.
Voilà. Oui. Alors, ces coopérateurs, ils n'habitent pas tous le quartier, j'imagine. Beaucoup habitent le quartier, mais pas tous.
Alors, beaucoup habitent le quartier, puisque c'est vrai que, disons que le noyau dur est vraiment, je pense, à proximité.
Oui. Ben, c'est un peu
mais
le phénomène.
Pas tous, parce qu'une de nos amies coopératrices traverse la ville quand même pour venir à nos réunions de 2 fois par mois du conseil coopératif. Et ensuite, on a aussi des coopérateurs qui sont plus des coopérateurs de soutien du projet, qui ont pris des parts sociales, mais qui parfois n'habitent pas du tout la région.
D'accord.
Voilà, qui sont des coopérateurs de cœur. On a nos familles, par exemple, qui ont pris des parts et qui n'habitent pas forcément la région.
D'accord.
Absolument.
Donc, ce lien avec le quartier, bon, il constitue, me semble-t-il, quand même une des caractéristiques de la Cavale. Au début, il se perpétue. Hein, parce que ça ne s'est pas, comment dire, altéré ou au fil des années, là, bon, cet enracinement dans le quartier.
Non, je ne pense pas. La librairie est vraiment maintenant une librairie bien implantée. Je pense que c'était justement l'objectif de la saison 1 autour d'un projet qui était et qui est toujours d'en faire un lieu vraiment de vie du quartier, un lieu de partage, de création de projets, de communs, d'animation culturelle, et puis de promotion de la lecture, du livre, avec un volet social qui maintenant reste vraiment le projet à développer. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à une phase où on aimerait aller vers plus de convivialité dans ce lieu. Et autour de ce lieu...
C'est-à-dire des formes de rencontres. On va en parler, des formes diverses de rencontres autour d'un auteur, mais pas seulement. Mais quand vous dites ça, plus de convivialité, c'est des formes, je veux dire, plus
informelles,
c'est ça. Plus informelles, plus simple à monter, plus...
Oui, absolument. On a commencé, on a par exemple organisé des cafés le samedi matin devant la librairie, où on offre le café aux passants et aux clients pour avoir le temps de discuter, de voir ce qui les intéresse, de les connaître et puis de tout simplement de partager un bon moment. Donc on a ce volet-là, puis on a aussi un volet d'animation pour les enfants.
Oui.
Il y a des lectures pour enfants, des lectures jeunesse qui sont organisées plutôt hors les murs. Alors il y en a à la librairie, mais il y en a aussi par exemple à la Maison pour tous ou dans le jardin partagé du quartier des Beaux-Arts, ou lors de marchés, on en a fait aussi au marché des Aubes en décembre. Et l'idée étant vraiment d'arriver au sein d'un parc, d'un jardin public, et de proposer un temps de lecture aux enfants et à leurs parents.
Alors il y a des formules plus habituelles, rencontres autour d'un auteur, d'un livre. Hein,
alors donc, voilà, on a aussi bien sûr les rencontres littéraires.
Voilà, donc ça c'est bon, c'est un point fort pour faire rayonner la librairie, j'imagine.
Bien sûr, oui. On reçoit des auteurs minimum une fois, deux fois par mois. En fin d'année, on a reçu Vinciane Després, les éditions Pluriverts, qui sont des éditions très intéressantes, justement, sur tout ce qui est transition écologique.
Oui, j'ai raté. Je devais venir, j'ai raté ce rendez-vous là, avec les deux auteurs, si mes souvenirs sont bons, là, de ce livre collectif. Là.
C'est ça. Et puis, on organise aussi des hors les murs, c'est-à-dire qu'on soutient des démarches organisées par d'autres institutions ou organisations, nos partenaires. Et on est là pour présenter des livres en rapport avec l'événement ou en rapport avec la présence d'un auteur. On sera par exemple la semaine prochaine à l'Agora, enfin le 25 je crois, à l'Agora des Savoirs,
oui,
autour de Gérard Noiriel et Stéphane Beau.
Ah, très bien, d'accord. Donc il y a cette effervescence à la fois intellectuelle et je dirais, humaine ou conviviale, et bon, les prochains rendez-vous. Et alors, rue de la Cavalerie, librairie La Cavale et La Cavalcade. Alors, qu'est-ce que c'est la Cavalcade dans les multiples initiatives que la librairie a prises depuis sa création?
Oui, la librairie, en effet, a... Enfin, en tout cas, le collectif, et je salue, j'en profite pour remercier Sylvain Berchy, qui était président pendant les quatre premières années, qui, avec le noyau dur, a initié ce projet d'acheter un vélo cargo, qui est vraiment à l'image de la Cavale, qui est rouge, hein, c'est notre rouge et blanc, et qui a pour vocation d'amener la Cavale là où les gens n'ont pas forcément connaissance du lieu et ne peuvent pas forcément venir à la librairie. Donc l'idée, c'est que ce vélo cargo nous permette d'organiser des lectures, des rencontres, voire même plus. Hein, ça peut être aussi le vecteur d'un projet plus vaste, hein, de genre comme un peu un tiers-lieu nomade qui se déplacerait dans les quartiers. En partenariat, pourquoi pas avec des partenaires sociaux, pour promouvoir la lecture, des ateliers d'écriture, des ateliers philo. Pourquoi pas faire écrivain public aussi, pour aider les gens.
Enfin,
voilà, il y a tout un projet
gros,
à monter.
Le livre, bon, c'est bien sûr l'objet principal, central, et autour, différentes formes d'activités proposées aux personnes, aux enfants, aux amateurs de livres, aux gens qui se passionnent pour tel ou tel sujet.
C'est ça. Ouais. Absolument. Et donc cette cavalcade...
Elle a fait halte où, par exemple, bon, elle s'installe quelque part dans Montpellier
Alors elle est... malheureusement, avec le Covid, elle n'est pas beaucoup sortie pendant ces années-là. Encore que, je me trompe, c'est avec elle qu'on a fait les livraisons, parce qu'on avait mis en place un système de livraison à domicile. Mais depuis, en fait, elle est sortie lors de différents événements. Le plus récent, je crois que c'est un marché de Noël, là, récemment. On est sorti aussi lors de la ZAT qui avait lieu à Antigone. On était visible pendant cet événement. Et puis, on la sort dans le quartier. Là, je crois que l'événement le plus marquant, c'est un événement qu'on a fait, je crois que c'était au mois de novembre, en préparant la nuit de la lecture qui a lieu bientôt, là, le week-end du 21 janvier.
Ça, c'est une initiative nationale, la nuit de la lecture.
Oui, alors la nuit de la lecture, c'est une initiative nationale qui est après reprise localement par les collectivités territoriales et puis les librairies, les médiathèques et tout le monde du livre et de la lecture. Et là, on avait fait une soirée en attendant la nuit de la lecture, où en sortie d'école du quartier des Beaux-Arts, l'école Jules Verne, on avait organisé des lectures dans les différents commerces du quartier, ou devant les différents commerces du quartier, et amené tout le monde progressivement vers la Maison pour tous pour une soirée de lecture par les enfants.
D'accord,
qui ne voulaient plus lâcher le micro.
Jusqu'à la librairie.
C'est ça. Et ensuite, par les adultes. Voilà.
D'accord.
Donc c'est vraiment un outil de médiation, c'est un vecteur voilà, pour arriver à rentrer en contact, à faire du lien avec des gens qui seraient intéressés par la lecture.
D'accord. Alors vous avez évoqué le fond, là, de 10 000 titres, et une coloration particulière qui avait été donc choisie au départ, là, ce qui concerne les sciences humaines et sociales, c'est ça. Pourquoi cette ligne-là dans l'offre, là, dans quelles ambitions ou objectifs ça correspond?
Oui. Alors au départ, il y avait eu quand même un constat, c'est que il y avait une étude de marché en quelque sorte, hein, au montage de la librairie, qui montrait que les librairies de Montpellier et alentour avaient toutes leurs spécialités,
oui,
mais qu'aucune n'affichait une spécialité en sciences humaines et sociales.
Donc ça, c'est une démarche marketing
complètement.
Tout à fait classique, si je dois dire, qui pourrait étonner les auditeurs, mais qui montre quand même le sérieux avec lequel le projet a été préparé.
Mais ensuite, ça avait énormément de sens, parce que d'un côté, on avait une mobilisation d'un certain nombre de coopérateurs issus du monde de l'enseignement, notamment en sciences humaines et sociales.
De la recherche,
énormément. Et puis l'objet même de la cavale est lui-même un objet de recherche, enfin en tout cas de réflexion, c'est-à-dire que c'est une coopérative, c'est tout à fait innovant. Alors depuis, il s'en est monté quand même plusieurs en France,
ah oui,
mais au départ c'était quand même assez rare. Et je dirais que voilà, on a tout un pan de réflexion à valoriser et à développer sur ce qu'est la coopération, sur ce qu'est la collaboration, parce qu'on voit bien que le projet de la cavale, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a à la fois de la coopération qui amène de l'altérité, du doute. On est là pour s'enrichir mutuellement de nos différences. Et c'est quelque chose qu'on pratique, je peux vous le dire, régulièrement dans nos réunions.
Y compris avec quelques engueulades ou de la passion dans la défense des idées.
C'est de la conviction, de la passion et forcément du coup un besoin ensuite de conciliation, enfin d'arriver à se comprendre et à avancer ensemble. Et puis on est aussi dans de la collaboration en sens où on a quand même un projet productif, commercial, il faut se répartir les tâches et avancer. Voilà. Et du coup, cet aller-retour en permanence entre l'idée qu'on a un commerce à tenir, on a des salariés à payer, et puis le fait qu'on se fait plaisir aussi dans un projet plus d'acquisition de compétences, de développement de nos goûts, hein. Chacun vient avec des idées, des envies. C'est assez passionnant et c'est ce qui en fait aussi la complexité.
C'est ça.
D'où l'intérêt pour les sciences humaines et sociales, qui sont quand même un fabuleux
champ de, oui,
champ,
à la fois de réflexion,
source de réflexion
et d'action.
Et je tiens quand même à souligner que depuis, ce fonds reste vraiment exceptionnel, ce fonds sur les sciences humaines et sociales, et il a été complété aussi par un fonds hérité des sciences humaines et sociales, hein, mais sur l'écologie.
Oui.
Donc on a aussi développé ça.
J'ai vu ça. Oui. D'accord. Du coup, ça attire à vous des lecteurs qui ne seraient peut-être pas venus, des étudiants par exemple, ou des professionnels dans de ces champs-là que vous avez dit autour des sciences humaines et sociales et de ce que ça induit. Du coup, je résume comme ça, ça vous donne une acuité dans le regard porté sur la société qui se traduit comme ça, quoi, je veux dire, en tout cas, voilà.
Oui, alors, c'est quelque chose, cette acuité, en effet, on a tous des antennes, en fait, justement, pour essayer de la développer et de faire en sorte que la librairie soit aussi un lieu, justement, de partage d'idées, de réflexion, sur notre temps. Il faut vraiment que ce lieu soit aussi un lieu où on vient aussi partager peut-être ses craintes. On voit qu'aujourd'hui, on a tous quand même beaucoup de matière à s'interroger sur l'avenir. Et voilà, je pense que ça peut être un lieu aussi de réassurance, de partage et de d'émancipation par rapport, en tout cas on le souhaite, par rapport à tout ça, oui.
Absolument. Alors, dernière question, ou avant-dernière en tout cas, des projets dont vous puissiez parler à ce jour, vous avez montré encore quand même cet éventail d'activités diverses qui se sont peu à peu installées, qui pour la plupart j'imagine se perpétuent, et il y a d'autres formes de développement de la cavale auxquelles vous, avec vos amis, vous réfléchissez.
Oui, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on est un petit peu dans le démarrage d'une saison 2 de la cavale, où on souhaiterait à la fois renforcer vraiment cette dynamique éditoriale dont je viens de parler, sur le fait que la cavale on aimerait que la cavale soit un lieu de ressourcement, d'émerveillement, de réflexion et d'émancipation. Donc à travers cette dynamique éditoriale qu'il faut peut-être renforcer. Et puis un projet plus social à travers le développement d'un groupe autour de la cavalcade qui serait à mener et il faudrait programmer en fait des actions tout au long de l'année avec des partenaires sociaux pour créer ce tiers-lieu nomade dont je parlais tout à l'heure et aller dans des quartiers comme par exemple la Paillade, la Mousson.
Où les librairies ne se bousculent pas.
Pas forcément, en tout cas. D'accord. Et où il y a vraiment de la place. Alors il y a énormément de projets dans ces quartiers-là, mais tout ce qui est lecture trouverait entièrement sa place, oui.
Très bien. Alors, du coup, bon, suivant ça, donc je rappelle la cavale 24 rue de la Cavalerie, dans le quartier des Beaux-Arts, à ceux des auditeuritrices qui ne connaîtraient pas, pour aller pas simplement peut-être acheter un livre comme on peut faire ailleurs, peut-être s'imprégner, je dirais, du système particulier, des relations humaines que vous avez installées. Merci, Laure Maton.
Je vous remercie beaucoup.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.